Hop là, c'est nous. Oups là, ouh, c'est fort, dis donc. Baisser un peu ça là. Ouais, on quitte Shaikari Miti. Je baisse le niveau d'enregistrement de Audacity. Voilà, vous êtes bien sur les ondes de Radio Galère, évidemment. 88.4, c'est Dataplex Résistance Musicale. C'est le dernier mardi du mois. En fait, bon, c'est pas vraiment le dernier mardi du mois parce qu'on pouvait pas la semaine dernière. Mais donc, on a décalé ça comme on l'avait déjà fait au premier lundi, mardi du mois. Donc, c'est aujourd'hui. Monsieur Pascal Gobin, vous êtes là. Bien le bonsoir.
Bonsoir. Donc, c'est quand même un mardi. Hein, donc, je peux monter un peu ?
Oui, je pense un petit peu.
Là ? Est-ce que ça va là ?
Ça va l'air bien. Hein.
Alors voilà, il y a toujours un petit, c'est pas un problème, mais un petit temps d'équilibrage de micro.
Oui.
Voilà, étant donné que évidemment Radio Galère étant une radio associative, ben nous opérons nous-mêmes.
C'est vrai.
Il n'y a pas de technicien en régie et tout se fait comme ça dans le fer. Voilà,
d'ailleurs, ça me permet quand même de saluer Sidi qui est avec nous là encore dans les locaux de la radio et qui justement lui a la générosité d'être très souvent pour nombre d'émissions à la technique pour aider les unes et les autres voilà, à pouvoir diffuser ce qu'ils ont
et faire ce qu'ils ont à faire.
Voilà, mais nous avons la chance d'être autonomes.
Oui.
Voilà. Donc, mais ça demande à chaque fois des petits réglages. Donc bah voilà, c'est la dernière de la saison, c'est ça Pascal ?
C'est, je crois, la dernière de la saison. D'ailleurs, j'allais signaler un petit peu plus tard, oui. Et donc,
j'ai mangé ton annonce, tu veux dire ?
Non, c'était pas une annonce en fait. Donc, on va essayer de. Enfin, j'ai préparé quelque chose d'un petit peu divers et varié, mais qui, quand même, est dans un fil conducteur. Et j'avais idée que, mais on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, d'engager quelque chose pour l'année prochaine. Alors, tu me diras, Damien, ce que tu en penses. Et puis. Les auditeurs, si vous avez quelques envies aussi, si vous voulez réagir, n'hésitez pas.
C'est marrant, j'ai absolument confiance en ce que tu vas me proposer, Pascal.
Alors, donc on est dans l'éclectisme. Vous savez, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, on va passer de Stockhausen à Art Ensemble of Chicago. Alors, on va commencer par une pièce de Stockhausen. Alors, c'est deux pièces assez longues ce soir. Effectivement, là, encore une fois, merci Radio Galère, parce que c'est une des rares radios sur lesquels on peut se permettre à l'heure actuelle de passer des pièces de 20 minutes. Donc ce soir, on aura deux pièces d'une vingtaine de minutes. Plus, on va parler sans doute, on va discuter, on va échanger, et donc ce qui nous permettra de faire notre heure. Mais encore une fois, je trouve que c'est l'une des particularités et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, enfin pour les musiciens, pour les gens qui aiment la musique, de pouvoir faire entendre de la musique sur la durée. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la dernière émission, c'est ce qu'on avait tenté, justement, avec Alvin Lucière.
Avec Lucière, oui.
C'est vrai que c'est des expériences rares et c'est vrai qu'on peut être très, très, très heureux et remercier Radio Galère.
Exactement.
Très honoré de pouvoir partager avec vous ces pièces musicales.
C'est long moment parce que la musique, quoi qu'on en dise, est faite de durée. Mm. Voilà. Tu sais, j'écoutais l'autre jour un commentateur sur une radio nationale. Remarquer et faisait un commentaire sur le fait que effectivement les morceaux étaient de plus en plus courts et il pensait que c'était effectivement lié au streaming parce que les auteurs sont rémunérés dans le streaming, les auteurs sont rémunérés au nombre d'écoutes et pas à la durée des morceaux proposés. Et donc ils ont évidemment tendance à faire des morceaux plus courts, à faire évidemment pour en avoir un petit peu plus et à faire des morceaux qui accrochent dès les premières secondes pour qu'effectivement, ils aient une rémunération au bout de 30 secondes.
Là, Pascal, fais attention parce que tu es en train de nous lancer vers la voie d'une sorte d'analyse comme ça, en retour du fameux la place du mass-média et puis du format. Et effectivement, hein, ça c'est l'histoire des musiques populaires et savantes, et notamment populaires, et en tout cas du mass-média qui va écraser, qui va imposer finalement aux artistes des morceaux de plus en plus courts et composés de telle ou telle façon qu'il fallait que l'accroche.
Exactement, l'accroche dès les premières secondes pour que, évidemment, on est un petit peu confronté aux mêmes problématiques que les supermarchés.
Ouais.
Il faut un produit en tête de gondole.
C'est
pour
ça. Vivre.
Et donc voilà, donc les résistances musicales de Dataplex, c'est aussi ça. Pouvoir faire de la durée dans la musique.
On n'est pas très tête de gondole, Dataplex.
Pas du tout. Nous, on pense que la musique est faite de durée, d'écoute et d'attention. Et donc voilà, donc on a commencé un petit peu déjà à diverger un petit peu par rapport à mon conducteur.
Oui.
Voilà.
J'adore
donc,
ça.
On commence effectivement. Et la radio est aussi faite de ça. Si on est deux, c'est bien pour échanger quelque chose. Donc on va commencer par une pièce de Karlheinz Stockhausen, qui est réputé donc pour être un compositeur de musique savante, réfléchie, etc. Et donc c'est toujours dans cette lignée d'essayer de repérer comme ça des tentatives chez les compositeurs, y compris les compositeurs savants, de fabriquer des musiques qui ne sont pas conceptuelles, mais qui sont plutôt dans la matière, dans le faire et dans l'action. Alors là, c'est une pièce qui est extraite d'une série de pièces, elle-même extraite d'une pièce encore plus longue, donc une pièce qui s'appelle extrait des 7 journées, Aus den Sieben Tagen, pardon pour l'accent, pour les germanophiles, les germanophones.
Bon, salut Céleste, qui doit justement écouter et te pardonner, je pense.
Voilà. Donc c'est un recueil de 14 pièces, c'est Aus den Sieben Tagen, de 14 pièces, donc la signification c'est extrait des 7 journées, qui est une pièce plus longue, et qui date de 1968. Alors l'idée de Stockhausen, c'est de proposer à des interprètes une musique dite intuitive. Intuitive, pourquoi ? Donc c'est une musique qui, il n'y a pas de partition à proprement parler, juste un texte qui exprime... une forme d'intention, une forme d'état dans lequel doit se mettre le musicien, l'interprète, le ou les interprètes, une espèce d'état d'esprit aussi, d'attente, de rapport à la durée. Voilà, il n'y a aucun commentaire du compositeur sur la manière de réaliser les œuvres. Simplement, les musiciens doivent s'emparer du texte et réaliser l'œuvre dans le temps de la réalisation. Alors, ce n'est pas vraiment une improvisation, c'est quand même un guide, quelque chose qui rassemble les musiciens autour d'une idée, autour d'un état d'esprit, autour d'une manière d'être. Voilà. Et donc la pièce que j'ai choisi de vous faire entendre ce soir, c'est une pièce qui s'appelle « Fais voile vers le soleil », dont éventuellement, peut-être tu peux nous faire une petite traduction, Damien ? Là, je le prends vraiment là... piégé. Alors, c'est une traduction anglaise de l'allemand et que Damien va essayer de nous retraduire en français, peut-être.
C'est très, très dur, ça. Ouais, disons que j'ai peur de faire des faux sens.
On va le faire à deux, si tu veux. Alors, voilà.
Parce que tone, bon.
Un son.
Ouais,
un son,
ouais.
Alors, play a tone for so long, qu'on peut traduire par jouer un son pendant très longtemps.
C'est ça, assez longtemps. Ouais.
Jusqu'à ce que tu entendes sa vibration
individuelle, propre.
Individuelle. Tiens le son.
Ouais.
Tiens le son. Alors la traduction est approximative, oui, encore, parce que il y a des comme ça des nuances dans l'anglais qui sont des traductions de l'allemand et qu'on essaye de retraduire en français. Et je trouve que c'est bien de garder cet état d'esprit de la spontanéité.
C'est
pour ça que j'ai un petit peu glissé à Damien de le faire spontanément.
C'est vrai, c'est bien. Ouais.
Parce que la traduction n'est pas préparée en fait, hein, elle n'est pas réfléchie.
On est là-dedans, en fait. Tiens le son et puis écoute les sons des autres.
Des autres musiciens.
Des autres interprètes, ouais.
Tous ensemble, pas des sons individuels,
ouais.
Et très lentement.
Fais évoluer ton son
jusqu'à ce que tu arrives
en complète harmonie.
En complète harmonie.
Et le son global,
oui,
deviendra de l'or.
Exactement.
Quelque chose de pur. Alors, gently, c'est...
délicatement.
Délicat, ouais.
Délicatement, shimmering, c'est...
Ouais. Un feu scintillant,
délicat, ouais. Doucement.
De la musique d'alchimiste, donc.
Voilà.
Le geste, encore une fois, dans un geste, hein, ici, même par rapport au texte. Hein.
Exactement. Donc on voit bien l'intention du compositeur qui est de créer une espèce d'environnement poétique, comme ça, qui permet aux musiciens de se mettre dans un certain état, d'avoir quelques images qui lui viennent à l'esprit avant de commencer à jouer. Et donc, les musiciens se retrouvent autour de ces images-là. Donc, on écoute la réalisation de l'ensemble Musique Vivante, dirigée par Diego Masson. Donc, il y a notamment Michel Portal, Jean-Pierre Drouet. J'ai oublié tous les noms des musiciens, malheureusement. Honte à moi, j'aurais dû le noter.
Aïe.
Mais, hein,
c'est pas grave, ça. On pardonnera aussi.
Voilà, on pardonne aussi. Donc, l'ensemble Musique Vivante avec Stockhausen à la réalisation et aux manettes électroniques. Donc c'est un enregistrement qui date de tout de suite après, du début des années 70.
Écoutons ça.
Thank you.
Monsieur Karl-Heinz Stockhausen.
Voilà, la fin tout en douceur. On va peut-être... voilà. La fin tout en douceur de Fais voile vers le soleil. Une des 14 pièces de Aus den Sieben Tagen de Stockhausen de 1968.
Ton accent est meilleur que tout à l'heure, non?
Ben, je me suis un petit peu entraîné là, pendant la vingtaine de minutes.
D'accord, c'est ça, c'est ce que je me disais.
L'allemand est une très belle langue. Hein. L'allemand est magnifique, une langue qui permet aussi des tas d'exercices de pensée par la manière dont on peut contracter les mots. C'est pas pour rien que les grands philosophes européens, ben, la plupart, beaucoup sont allemands.
Beaucoup sont allemands.
D'accord. Bien. Alors, on va un petit peu changer de style, mais pas changer d'état d'esprit, je trouve. Hein. Comme tu le remarquais en écoutant Stockhausen, on est assez proche des expériences quelque part. Enfin, on pourrait, au moins de manière sonore, même si l'intention n'est pas tout à fait la même, on serait assez proche d'un point de vue sonore d'expériences de free jazz, de jazz libre, on va dire, le terme de free jazz, trop connoté sur un style particulier.
Disons qu'il a été récupéré aussi assez vite par des critiques notamment, et puis l'industrie musicale. Hein.
Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi j'aimerais donc profiter de cette dernière émission pour anticiper un petit peu sur l'année prochaine, et puis dans la mesure où nous allons poursuivre, bien évidemment.
Je ne sais pas pourquoi, parce que là j'ai une intuition.
Ouais. On voit si je pense. Et essayer de, comme ça de dégager une problématique. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu maladroit, mais finalement, autant le partager avec les auditeurs. Donc, dire effectivement, c'est un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de remettre en perspective l'idée qu'une œuvre, une composition musicale, mais tout aussi bien une composition plastique, n'est pas seulement un objet, mais que les conditions de son apparition dans un contexte social, culturel, historique, etc., sont aussi un élément extrêmement important. Et c'est une chose qu'on a un petit peu tendance, à mon avis, au moins pour moi, dans l'art savant, parce que l'art savant, il se situe, l'art de la musique savante ou l'étude de la musique savante se situe toujours dans une perspective historique. Donc on a un petit peu tendance à considérer les œuvres comme des objets autonomes, des choses autonomes, comme ça, qui seraient un petit peu intemporelles, et à oublier quelles sont la conséquence d'un geste artistique et d'une volonté, la volonté d'un esprit qui se situe dans une époque particulière, dans un contexte particulier, dans un contexte social, dans un contexte politique, culturel particulier.
Un événement diachronique, mais dans une synchronie.
Exactement.
Alors, c'est juste pour faire l'intéressant, ça, parce que j'aime bien ces deux mots-là, en fait. Pardon, je l'enlève.
Oui, donc je vais continuer parce que
j'avais dit qu'on allait j'allais m'amuser à te couper un peu
exactement,
la parole.
Exactement, c'est une bonne idée, comme ça me permet de respirer aussi un petit peu. C'est le jeu de la radio. Alors, comme exemple, je voudrais simplement peut-être donner un petit peu l'archétype de la référence de la musique occidentale qui est Mozart. Alors, l'œuvre de Mozart, on la situe dans notre patrimoine, mais on va dire, on l'écoute comme une musique actuelle. On écoute comme musique de maintenant, elle fait partie de notre patrimoine culturel de référence. Évidemment, c'est le patrimoine qui appartient quelque part aussi aux personnes bien éduquées, bien cultivées. Et on prend vraiment jamais la mesure de l'esprit combatif et l'esprit d'émancipation et l'esprit, j'allais dire, quasiment pré-révolutionnaire de Mozart. Qui est si bien décrit dans un livre, alors là je vais le donner, les références, un livre d'un sociologue allemand qui s'appelait, puisqu'il est décédé maintenant, Norbert Elias, et qui a écrit un livre qui s'appelle Mozart, sociologie d'un génie. Et il décrit précisément l'attitude et ce qui pousse Mozart à s'émanciper totalement de ces structures sociales, donc à être en faux avec les structures sociales de son époque. Être en faux contre les structures extrêmement hiérarchisées des cours et des sous-cours et des larbins au bout du compte. Et donc il est vraiment en faux contre ça, il va même essayer de monter des concerts à compte d'auteur. Donc il y a quelque chose de très pré-révolutionnaire, quasiment pré-romantique, si vous voulez, dans l'attitude de Mozart.
Je te coupe, pas pour t'embêter, mais on retrouve ça aussi, tu me contrediras, peut-être Pascal, mais dans l'œuvre de Bach. C'est-à-dire qu'effectivement, Bach, lui aussi, a répondu, a fait des œuvres de commande, etc., pour se nourrir notamment, facteur de clavier, machin, plein de choses. Et dans le fameux film des Straub, je dis ça parce que, non pas parce que j'ai parlé des Straub tout à l'heure hors micro, quand Thierry Jousse, dans une interview de Daniel Huyette et Jean-Marie Straub, lui parle ils demandent leur rapport au son dans leur film, et voilà, ils notamment pour lutter contre la stéréophonie, bon, on parlait très vite, et puis que Straub répond monophonique, c'est pas moi qui le dis, c'est Stockhausen, c'est quand même monsieur Stockhausen qui est de la musique, c'est monophonique, bref. Et Straub et Huyette font un film sur Anna Magdalena Barr, et donc qui évoque l'œuvre de Barr, mais par le biais de, bah ouais, de Anna Maria Magdalena, quoi. Ouais. Et c'est merveilleux parce qu'on voit justement cette notion d'émancipation, ouais, des normes et des règles. Et on, effectivement, on s'en rend pas compte, comme tu le dis maintenant, c'est voilà, Bach, Mozart, ce sont là deux parangons de la musique savante, et voir des codes de la bien-pensance, de la petite bourgeoisie, ou même de la grande bourgeoisie.
Oui, d'une certaine classe sociale, voilà, qui s'est totalement appropriée cette musique-là.
Sans se prendre en compte ce que tu disais, pardon, et je te rends la parole.
Exactement, il faut savoir, on trouve dans les biographies de Beethoven, aussi la mention de Beethoven qui a fallu aller en prison parce qu'il refusait de retirer son chapeau devant le prince. Mmh. Donc il y avait quelque chose comme ça, une volonté d'un être humain de s'opposer aux structures sociales, alors que maintenant ce sont des musiques qui sont effectivement non seulement totalement intégrées aux structures sociales, mais qui sont même représentatives d'une certaine forme, on va dire, de domination culturelle.
Et de conservatisme, malheureusement.
Ouais. Ouais, exactement. Alors, je suis récemment tombé, et alors là, moi, je vais naviguer un petit peu, je vais défricher le terrain au fur et à mesure que je parle, mais malgré tout, c'est aussi ça de faire de la radio. Hein, moi, c'est ce qui me plaît, si tu veux, c'est ce qui me plaît, c'est-à-dire que je prépare les émissions que nous faisons ensemble, c'est-à-dire que j'apprends des choses, je ne fais pas que distiller mon savoir, j'apprends, je vais sur des choses qui me sont un peu inconnues. Alors là, ce dont je vais parler, je vais le dire tout simplement, je suis totalement incompétent pour le faire, mais ça me passionne énormément. Je suis tombé donc sur un livre qui s'appelle « La nuée, l'ACM, un jeu de société musicale », qui est un livre d'un anthropologue, chercheur, qui s'appelle Alexandre Pierrepont. Et donc je suis tombé par hasard sur ce livre en fouillant, j'aime bien fouiller moi, dans les librairies comme ça, de trouver de l'inattendu. Et je suis tombé sur ce livre et c'est absolument passionnant. Donc, alors, qu'est-ce que l'ACM ? L'ACM, c'est l'acronyme pour Association for the Advancement of Creative Musicians. Donc, c'est un regroupement de musiciens noirs américains. Mmh. Ça, c'est important de le dire. Qui est né en 1965 à Chicago.
On est à Chicago, ouais.
On est à Chicago. Mmh. Donc, ensuite, effectivement, le principe de cette association est s'aimer sur tout le territoire des États-Unis et bien au-delà. Donc, ce sont des musiciens donc, dits afro-américains et qui, à un moment donné, ont senti la nécessité de mettre en commun leurs efforts et de réfléchir à leur pratique musicale en regard des notions d'autodétermination et d'autogestion qui étaient mises en avant notamment par le mouvement des
droits civiques,
Power.
Ouais, des droits civiques en général et des Black Power en particulier.
Et donc, on voit bien que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette importance d'ancrer la création et le geste de création artistique dans un contexte social, là on est en plein dedans. Parce qu'il y a dans ce regroupement et dans cette manière de revendiquer aussi le jazz comme une particularité une particularité culturelle des Afro-Américains et de contester à travers ça l'accaparement du jazz et l'intégration du jazz à la culture nord-américaine,
regarder,
de contester fortement, voilà, et de revendiquer cette particularité de cette culture afro-américaine. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est non seulement un geste social, mais un geste éminemment politique de faire reconnaître effectivement le jazz et le jazz libre comme une particularité de cette culture, de cette communauté afro-américaine, et de considérer l'accaparement de cette culture du jazz par le public blanc comme une survivance blanche de la domination qui a suivi l'esclavage. On retrouve ça chez Malcolm X, donc dans des citations, de certains musiciens de l'Art Ensemble Chicago, donc notamment Lester Bowie. Je vais vous lire tout à l'heure peut-être une petite citation de Lester Bowie, qui était le trompettiste des fondateurs de l'Art Ensemble Chicago. Et encore une fois, là, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça, mais je trouve que cette problématique est extrêmement intéressante dans la mesure où on peut la relier en venant donc de ce qu'on appelle le jazz, bien que du coup on se rend compte quand on en parle comme ça, que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une chose qui est aussi à voir avec une société marchande qui identifie le jazz pour faire un classement des rayons. Donc on a le jazz, on a le heavy metal, on a le rock, ceci, le machin et la variété. Et donc, mais en fait, ça, vraiment, il y a quelque chose qui est... C'est comme le rap, si tu veux. Le rap est devenu une espèce de genre musical, alors qu'à l'origine, c'était vraiment un mode d'expression extrêmement contestataire de gens qui s'exprimaient musicalement dans la rue, si tu veux. Voilà. Et voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et c'est un petit peu, alors, si tu veux bien, un petit peu le fil conducteur de ce qu'on va essayer de produire dans la saison 2019-2020.
Eh bien, écoutez, hein, vous...
Vraiment, d'un petit peu de tout ce qui nous passe par l'esprit. Donc on aime bien être éclectique et on va s'inspirer du free jazz. Moi je vais bien potasser le livre de Pierrepont là pendant le mois de juillet, le mois d'août.
Tu me le prêteras s'il te plaît. En l'occurrence, moi je suis passionné hein, de ce mouvement, de cette époque,
ouais,
et de ces musiciens. Exactement. Ce livre, je ne le connais pas. Mais t'imagines, je pense que tu avais anticipé un petit peu ma réponse. Tu imagines que cette proposition me ravit au plus haut point.
J'aurais pas. Je pense oser te poser une question qui a plein de réponses négatives.
Oui.
Là, en direct. Voilà. Alors, je vais juste avant. Donc, on va entendre un enregistrement, de l'Art Ensemble of Chicago. Alors, vous allez voir, le son est pas très bon. C'est un enregistrement live, mais quitte à faire entendre du free jazz, je me suis dit que l'enregistrement live, c'était la meilleure des choses à faire. Alors c'est un enregistrement qui a été fait à Paris en 1970. C'est extrait d'un, je crois que c'est un double album qui s'appelle Live in Paris de 1970. Et donc on a quand même donné les noms là
des musiciens.
Donc on a Lester Bowie à la trompette, Roscoe Mitchell au saxophone, Joseph German au saxophone, Malachi Favors, si je prononce bien, à la basse, et Don Moy à la batterie.
Monsieur Don Moy qui... Alors, je ne crois plus qu'il est encore sur Marseille, mais qui a vécu quelques années sur Marseille, il n'y a pas longtemps.
Ah oui. Hein. Ah oui.
En 70, les musiciens vivent à Paris.
Ils passent
quelques temps à Paris, pour des raisons aussi politiques et culturelles, bien sûr. Hein, mais Don Moy, qu'on a eu la chance de recevoir dans plusieurs lieux marseillais, des petits lieux marseillais, à la machine à coudre, à la bobineuse, au Grimm, hein, notamment aussi. Et voilà, avant tes vidéos. Ouais.
Okay. Donc, avant d'entendre la musique de l'Art Ensemble of Chicago, je vais vous lire juste une citation comme ça que j'ai trouvée dans le livre d'Alexandre Pierrepont, une citation d'Esther Bowie, qui, encore une fois, resitue bien, à mon avis, le sens de cette musique-là dans ce contexte socio-politique. Alors, ouvrez les guillemets. Quelqu'un qui n'a jamais entendu de jazz ni même de musique peut apprécier, aimer la musique de l'Art Ensemble of Chicago. Mais s'il ne connaît rien à l'histoire de la musique du peuple noir, il y a beaucoup de choses qu'il ne comprendra pas. Voilà. Donc on écoute Oh Strange, donc extrait de ce Live in Paris de l'Art Ensemble of Chicago. Thank you.
Thank you.
Hop là, nous revoilà.
Et nous revoilà. Donc,
on s'est laissé happer par plein de choses.
Par plein de choses, voilà. Par plein de choses et par tout ce que nous évoque cette musique, ces pratiques, cette manière de, comme on le disait, d'ancrer le geste de création artistique dans un contexte social, politique, qui lui donne toute sa signification. Voilà, je crois que nous arrivons au bout de l'émission.
Écoute, ouais, c'était un vrai plaisir. Hein, je ne...
Au bout de l'année, au bout de l'émission, bah, c'est un petit peu le... Enfin, c'est pas la fin d'une chose et le début d'une autre.
Non, c'est une continuité, c'est ça.
Exactement. Ouais. Donc, on se donne rendez-vous. On va recommencer vers début octobre.
On recommence quand tu veux, Pascal.
Ouais, hein. Et donc, avec ce sujet, donc ce sujet d'essayer de reconsidérer l'œuvre, non pas comme quelque chose d'autonome, mais de mettre en discussion aussi ce qu'on disait un petit peu hors micro tout à l'heure, c'est-à-dire que rendre l'œuvre autonome, c'est aussi la rendre disponible pour toutes les, comment dire, tous les accaparements possibles par telle ou telle forme, par telle ou telle, comment dire, fraction de la société, classe sociale, je ne sais pas comment il faut dire ça. On parlait notamment, alors là, ça, évidemment, on sort du cadre de la musique, on parlait notamment de George Orwell, qui malgré un engagement évident, je veux dire, dans ce qu'on peut considérer comme étant la gauche ou l'extrême gauche, des engagements politiques forts, y compris aller avec les brigades en Espagne, etc.
Bien sûr, les brigades internationales. Ouais.
Et maintenant, son œuvre est assez facilement récupérée par les courants de droite, etc. Donc détacher l'œuvre de l'intention de l'auteur fait qu'elle est disponible un petit peu pour tout le monde et pour tous les commentaires qu'on peut en faire, y compris les faux commentaires.
C'est très cynique. D'ailleurs, ce que je disais quand on parlait de ça hors micro, c'est que malheureusement, ça avait déjà été le cas par Ronald Reagan, qui avait essayé de s'approprier le discours d'Orwell, notamment en 84. C'était un vrai contresens, mais ça avait marché parce que voilà, Ronald Reagan avait accès aux canaux principaux, aux mass médias. Bon, ça n'avait dupé personne en vrai, a posteriori, mais tout de même, ouais, dans un vrai cynisme concernant Orwell, puisque justement, c'est ce qu'il dénonçait, hein, l'utilisation du langage pour tenter de détruire la pensée, mais ça ne marchera pas.
Donc, on dit encore merci Radio Galère, parce qu'on a fait une émission de quasiment une heure et quart à la place d'une heure.
C'est vrai.
Ce qu'on n'aurait certainement pas pu faire sur France Inter ou sur France Musique.
Par exemple.
On aurait été interrompu. Donc là,
encore moins sur les chaînes de radio privées.
On prend beaucoup de soin à essayer de cadrer ce qu'on va dire, les musiques qu'on fait entendre dans un cadre d'une heure, comme ça, parce que c'est le temps qui est alloué. Eh ben, on a la possibilité de déborder et de se laisser aller à la discussion et de se laisser aller comme ça, être porté par nos pensées, nos imaginaires.
En espérant que vous vous laissiez porter avec nous.
Voilà.
Alors juste avant de finir, hein, je fais deux petites annonces. Tu as peut-être des annonces à faire aussi. Je vais en faire trois d'ailleurs. Juste pour vous dire que il va se passer un drôle de truc à l'Embobineuse. Hein, le coq porn numéro 2, voilà, profondeur, musique, Perf Expo et des stands. Voilà, c'est l'Embobineuse. Ayane Coco, Plus Oléos, François Fournet, Dacha et Sacha, même pas mal. Christophe Siebert, Nora Neko et Overcraft. Ça, ce sera la partie musicale. Il y aura plein d'autres intervenants qui seront là aussi. Morgana Fatama, défilé, enfin bref. Venez faire les curieux à l'Embobineuse, vraiment, vendredi soir, à partir de 20h. Il fera chaud, mais ça ira très bien avec la soirée. Lundi 8 à Data, il y a une sortie de résidence, Semlé. Ça va être fort intéressant, de la musique synthétique, rock'n'roll, un peu difficile à décrire. Voilà, c'est une petite résidence qu'ils ont commencé aujourd'hui à Data, et donc sortie de résidence le 8. Et puis la troisième chose que je voulais annoncer, avant que tu annonces peut-être d'autres choses, Pascal, c'est que justement début octobre, peut-être sur une série d'émissions, mais ce sera aussi l'occasion du Variété Expérimentale numéro 3. Où on va justement mélanger des drôles de personnes, des gens du dernier cri, de l'art de vivre, de Data et de l'Embobineuse.
Voilà, et puis essayer de réfléchir comme ça sur ces musiques et ces formes de création artistique, parce que le dernier cri est avec nous, donc le dernier cri étant plutôt dans le domaine des arts plastiques.
Même si c'est très très lié à l'expression musicale.
Bien sûr,
également.
Hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'élargir un petit peu, comme ça essayer de travailler comme ça ces modes d'expression qui sont à la fois populaires et à la fois marginaux, et voilà, qu'on croise pas toujours dans les canaux de grande diffusion.
Très bien. Et donc, tu repars bientôt dans un festival dans lequel, duquel tu viens ?
Alors, j'arrive, je ne veux pas y repartir, mais le festival continue sans moi.
Festival continue, ouais.
Alors, c'est le festival des rencontres de la Outre-Manche. C'est un truc tout à fait particulier qui fonctionne vraiment très, très bien. C'est donc l'art de vivre qui est un petit peu le maître d'œuvre de ça. Donc, ce festival sous chapiteau avec des concerts, des rencontres, des discussions. Vous savez, il y a beaucoup de gens là. Donc, on est dans les Hautes-Alpes. À Villard d'Arène, c'est un petit village qui est près de la... Alors, je dis près de la Grave, mais c'est en bas du col du Lautaret, donc pas très loin de Briançon, et on rencontre des gens qui se donnent énormément de mal, y compris des maraudeurs qui montent en hiver au sommet du col de l'Échelle pour accueillir des jeunes gens qui arrivent là totalement démunis, avec parfois des enfants qui sont là en basket, en blue jean et en t-shirt, alors qu'il fait moins 10 dehors. Et des gens qui se donnent énormément de mal pour accueillir et pour donner un petit peu d'humanité... comment dire, j'allais dire en étant un peu grandiloquent, donner un peu d'humanité à la France, tu vois, et fait qu'on on peut se regarder en se disant qu'on n'est pas des salopards qui font mourir les gens, quoi. Mais voilà.
Et c'est jusqu'à.
Et ça dure jusqu'au week-end prochain,
jusqu'au 6. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez du temps, à monter. Pascal, ce fut un plaisir.
Moi aussi.
À très très vite.
Bah, très vite. Alors on fera la rentrée des classes et puis on se retrouve après.
Mais c'est parfait.
Voilà.
Allez.
Bon été.
Bonne soirée, bon été. Salut.